le principal conseiller de Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett Magher, qui est en visite en Israël et en Égypte cette semaine pour discuter d'une éventuelle offensive à Rafah et des efforts visant à libérer les otages. C'était l'occasion pour nous de parler de ce sujet avec Gérard Vespierre, géopolitologue que Lucie Gilson a rencontré pour nous.
Gérard Vespierre, bonjour. Vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Brett Magher, conseiller à la Maison-Blanche, sera en visite en Israël cette semaine. À la lumière des dernières tensions diplomatiques entre les États-Unis et Israël, comment comprendre cette visite ?
Une intervention importante dans l'ultime sud de la bande de Gaza, là où est massée une partie importante de la population, à peu près 1 million d'habitants à Rafah. Donc, effectivement, il s'agit d'une situation humanitaire et une situation qui pourrait avoir des prolongements dans l'attitude des États qui sont dans la région.
Alors justement, j'allais l'évoquer, il devrait évoquer la situation des otages et les opérations militaires à Rafah. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres développements ?
Écoutez, d'abord, c'est une partie de bras de fer, n'est-ce pas, de la part du Premier ministre israélien. C'est aussi une pression exercée contre le Hamas en menaçant d'intervenir massivement dans le dernier bastion. Donc, là où se trouve possiblement des éléments assez nombreux des milices militaires du Hamas. Donc, c'est un moyen de pression de la part de l'État israélien pour obtenir certainement quelque chose de la part du Hamas. Donc, soit des libérations d'otages, soit une libération globale des otages. Donc, on est au milieu de négociations.
Et comment ces négociations pourraient se concrétiser particulièrement ? Est-ce que il y a quelle est la marge de manœuvre des États-Unis par rapport à ça ?
Écoutez, la marge de manœuvre, elle est, je pense, importante. La marge de manœuvre, elle est financière, elle est militaire, elle est diplomatique, elle est aussi dans la dissuasion que les États-Unis ont apporté et pourraient apporter à nouveau à Israël en cas de déflagration sur la frontière libanaise. N'oublions pas que les États-Unis avaient mobilisé le plus grand porte-avions du monde dans la Méditerranée orientale, donc dissuasion vis-à-vis du Hezbollah. Et si le Hezbollah hissait le niveau du conflit, les États-Unis ont la possibilité ou non de faire revenir cet élément de dissuasion.
Est-ce qu'on peut maintenant revenir sur les préoccupations principales de l'administration Biden concernant justement cette opération militaire israélienne à Rafah qui est très décriée par la communauté internationale avec les États-Unis en tête ?
Écoutez, d'abord, c'est une continuation des combats, donc cela repousse d'autant la libération des otages, cela repousse d'autant la probabilité de retrouver le maximum d'otages vivants, d'une part par les risques encourus au cours des frappes et des interventions à Rafah, et deuxièmement, effectivement, si certains d'entre eux sont blessés ou dans une mauvaise situation médicale, la prolongation de la détention risque d'être fatale. Donc il y a des situations effectivement délicates à gérer pour l'armée israélienne et le pouvoir politique israélien.
Et pourrait-il y avoir des impacts sur les négociations, sur les accords en cours de libération des otages justement ?
Ben, en tout cas, le point clé, c'est le temps, n'est-ce pas ? Donc, si des interventions étaient déclenchées à Rafah et que, comme l'annonce le Premier ministre israélien, il est question de prolonger l'occupation encore, ou l'intervention, plus exactement l'intervention, pendant 4 à 6 semaines, cela recule d'autant la libération des otages et diminue aussi d'autant les possibilités de retrouver le maximum d'otages en bonne santé et bonne condition.
Comment la Maison-Blanche a-t-elle réagi aux déclarations du Premier ministre israélien et son insistance pour justement mener cette opération terrestre à Rafah, malgré les objections ouvertes de l'administration Biden à ce sujet?
Ben, je pense que la venue conseiller spécial de la Maison-Blanche pour les affaires du Moyen-Orient et membre du Conseil national de sécurité des États-Unis n'est pas tout à fait lié au hasard, n'est-ce pas? Si un envoyé de cette importance et ce niveau-là fait un déplacement, c'est qu'il y a effectivement des choses à dire.
Est-ce qu'on peut imaginer une crispation encore pire des relations diplomatiques entre les États-Unis et Israël?
Oh, je pense que la situation n'est pas encore terriblement tendue. Elle pourrait se tendre davantage, effectivement, si une intervention importante à Rafah était engagée, mais pour le moment, je pense que la priorité est liée aux discussions et les négociations entre Washington et Tel Aviv.
Alors aujourd'hui, il va y avoir un vote du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport à un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis, est-ce qu'on peut envisager que les États-Unis opèrent un revirement total et ne soulèvent pas leur veto?
Écoutez, effectivement, tout est possible étant donné la tension croissante. Cela fait partie des éléments de pression que effectivement Washington peut faire jouer vis-à-vis de Tel Aviv.
Et enfin, pour conclure, comment est-ce que vous pensez que cette situation va se développer en termes de relations entre les États-Unis et Israël à court et à moyen terme?
Le court terme est effectivement tendu, mais il est évident que cette situation n'est que passagère. Que l'intervention à Rafah ait lieu ou pas lieu, dans quelques petites semaines, la situation devrait se résorber par l'arrêt des interventions militaires de Tsahal dans la bande de Gaza. Donc, si on regarde la situation vers le mois de mai et plus loin, eh bien, les choses devraient revenir à une situation plus normale.
Alors, imaginons, oui, c'est vrai, effectivement, que Tsahal a indiqué un délai de 6 à 8 semaines, si je me rappelle bien. Mais dans l'éventualité où ces opérations se poursuivent plus tard, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences à long terme sur les relations entre Israël et les États-Unis, qui est son premier allié?
Ah, je pense que le délai que vous venez de citer et qui a été effectivement indiqué par le chef d'état-major ou le ministre de la Défense, plus exactement, bien, je pense est le délai maximum. Donc, au-delà de 6 semaines, c'est-à-dire à environ fin mars, les opérations devraient arriver vers leur stade ultime.
Eh bien, Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous. Bonne fin de journée.